Adrien mange ton pain.
Oh.
Ça commence bien.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. C'est l'intro la plus conceptuelle qu'on ait jamais faite à la cellule, je pense. Aujourd'hui, on va tester un jeu qui s'appelle My Centipede Boyfriend, un jeu donc de Aorabel. On est d'accord là-dessus.
J'ai oublié les règles dehors, je vais les chercher.
Tu rigoles. Avec Darky, ça va la pêche?
Salut, ça va.
D'accord. Jérômes.
Après cette partie, ma barbe colle.
Broussaille.
Bonjour.
Alex 2.
Salut tout le monde. C'était un petit peu dur.
on aura l'occasion d'en reparler. Emmanuel Meffray.
Hello.
Mathieu Mine.
Salut.
Et Flavie. Oh mon dieu. Adrien Cahuzac nous rejoint avec les règles du jeu. Adrien, est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter My Centipede Boyfriend? Je précise pour les auditeurs auditrices que nous trichons un petit peu aujourd'hui puisque le jeu, la partie a déjà été faite avant que cette introduction au podcast ne soit
C'est ça, donc on fera quand même la coupure rituelle. Ça fait partie de la tradition.
Si tu y tiens. Donc du coup, Adrien, de quoi qu'il s'agit que My Centipede Boyfriend?
Très bien.
C'est un jeu d'Aorabel ou pas?
Alors oui, c'est un jeu d'Aorabel. Oui, okay, et cool. Pour être franc, il s'agit, je pense, d'une blague. Je sais pas, on va mais...
Non, je pense pas que
c'est une expérience sacrément particulière. Donc c'est un jeu qui se joue de deux à autant que vous voulez, dans lequel on va narrer une histoire d'amour entre un humain, entre un humain et une humaine, et un mille-pattes géant. Qui tire des lasers par les yeux, qui a à peu près 10 000 ans d'âge, qui vient d'une autre planète et qui s'appelle Xvixxix.
Tu peux nous répéter ça, s'il te plaît?
Xvixxix.
Est-ce que tu peux nous les plaît
tout ça? X,
on n'est pas sûr de la prononciation, en fait.
Z-Z-Y-Y-V-Z-Y-S-X. Xvixxix.
D'accord, ouais.
Ce personnage, donc ce mille-pattes géant, est amoureux du personnage humain. Ils sont en relation amoureuse.
Donc les deux personnages jouent dans ce contenu fictionnel.
C'est
un ver cosmique, un centipède cosmique géant et un être humain.
Quand t'as expliqué ça, moi j'avais en tête des extraits de ce truc japonais où t'as une sorte de truc qui fait des bruits affreux, qui devient le conseiller pédagogique.
Dans les vidéos montrées parmi les vidéos d'Antoine Daniel, je crois. Ça.
Ouais, en gros, c'est un film japonais où t'as une sorte de truc qui monte, qui fait des bruits affreux.
Dans le délire, t'imagines très bien des Japonais derrière ça.
Et du coup, oui, moi j'avais ça en tête quand t'as expliqué ça.
Moi j'avais juste en tête, c'est marrant, La Belle et la Bête. Juste tout simplement, référence française.
Mais la bête est vraiment bon.
Oui,
une
bête très inhumaine.
La bête est badass, quoi.
Vraiment, je suis le seul à penser au hentai, quoi, quand j'entends ça.
Oui, pourquoi? Au quoi?
Au quoi?
Quoi? Comment?
Sans déconner, je veux dire, le nombre de hentai dans lequel il y a des xénomorphes qui attaquent.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un hentai?
C'est un style d'animé japonais, on va dire à caractère
pornographique.
Sensuel, pornographique, érotique, ça dépend le hentai c'est la version papier et donc il y a des animés hentai dont moi personnellement je suis très friand et parce que moi je lis pas, je sais pas lire, hein, je sais pas lire.
Personne n'en lit autour de la table et personne ne sait ce que c'est.
Voilà, d'accord. Ok. Bon bah alors donc je vous explique. Et donc du coup il y a un style de hentai dans lequel effectivement toutes ces charmantes demoiselles ou damoiseaux sont en relation directe avec des races xénomorphes, et dont des relations sexuelles avec elles régulièrement, etc.
Il, elle.
Et je trouve ça très bien. C'est, voilà. À titre personnel.
Mais tu sais, des balles sales, hein, si ça marche autant, c'est qu'il y a une raison. Hein.
Voilà.
Sauf qu'on s'en défend. Ah non, je ne sais pas ce que, tout ce que c'est.
Non,
ah non, tu ne trouveras rien dans mon historique.
Ça marche très bien en dessin animé, mais sitôt qu'on passe à la 3D, parce que maintenant il y a une espèce de délire de passer les animés hentai en 3D, c'est-à-dire en vrai 3D de jeux vidéo, là ça devient vraiment très très glauque. Et j'ai eu l'occasion de voir ce type de. Mais je suis désolé.
Tu vas dans des conventions très étranges, Romaric.
Écoute, et si tu sais, si je fais du jeu de rôle, je peux faire beaucoup d'autres choses.
je confirme.
On se retrouve pas avec Sens Renaissance d'un film pornographique en fréquentant des rôlistes. Je veux dire, voilà.
J'aime bien
la pornographie. Mais...
Dans la continuation de la présentation, ce mille pattes géant qui tire des lasers par les yeux a aussi des mauvaises habitudes. Notamment, bah, il mange des humains, il essaye de conquérir le monde. Il a quelques colères en lui, quoi, donc il se fait suivre, hein, mais tout va bien. Et donc, pendant la partie, on va jouer des scènes du point de vue de l'humain ou de l'humaine, et pour narrer des scènes quotidiennes de leur romance. Ça peut être aller au supermarché, rencontrer les parents de l'un ou de l'autre, aller au cinéma en couple. Enfin, des scènes tout à fait standards. Hein. Vous imaginez votre vie de couple ou vos vies de couple passées, pas de problème. C'est ça, sauf que le partenaire, c'est un mille-pattes géant. Mais sinon, tout est pareil. Hein.
Oui, effectivement, je comprends pourquoi tu penses à cette scène.
À tour de rôle... À tour de rôle, des joueurs vont s'installer tout seuls sur une chaise, ce sont les seuls à être assis, et ils vont avoir les yeux bandés. C'est eux qui vont être narrateurs, ils vont avoir toute liberté sur la fiction, ils vont tout décrire, c'est eux qui ont le dernier mot sur tout, ils parlent de leur point de vue interne, externe, auteur, personnage, comme
ils veulent. Oui, mais par contre, on joue tous le même personnage. Hein.
C'est ça.
Ce que je n'avais pas compris au départ, on joue tous le même personnage, c'est-à-dire c'est vraiment un humain ou une humaine qu'on gardera... mais avec joueur tournant, en fait.
Tout le monde est John. Tout le monde est l'humain.
Tout le monde est John. Xix, et toujours Xix.
Mais Xix, c'est tous les autres. Donc
c'est ça.
C'est tous les autres.
Pas que. Les autres, ils jouent aussi le décor, les bruits ambiants, ce genre de trucs.
Oui, aussi. Ouais, on va y venir. Et donc, le narrateur, assis, les yeux bandés, raconte. Tous les autres joueurs ont les yeux ouverts, peuvent y voir, peuvent se déplacer librement autour, et ils peuvent... faire des bruitages et toucher le narrateur. Ils n'ont pas le droit de parler. Et ensuite, libre à eux de faire les bruitages de ce que décrit le narrateur, ou de faire des bruitages pour que le narrateur décrive ce qu'ils sont en train de faire. Et la fiction se crée comme ça, de façon
chaotique. Je comprends mieux l'introduction de ce podcast. Ok.
Voilà. Sachant que quand tu t'apprêtes à aller sur la chaise, tu détermines les endroits où tu ne veux pas qu'on te touche, ou ce qui est autorisé, en fait.
Ouais.
Et t'es pas obligé non plus de t'asseoir sur la chaise. Je pense qu'il faut ça, il faut le préciser. Personne te force à t'asseoir sur la chaise. Si tu dis non, j'ai pas envie, tu t'assieds pas.
Il y a des règles pour comment jouer en convention avec 200 personnes dans la salle et il y a 3 personnes qui vont monter sur la chaise et ils sont volontaires ou pas. Et puis voilà. Et donc le jeu invite, en préparation de la partie, à avoir du matériel. Donc ramener des props, donc des ustensiles, quels qu'ils soient. Quoi. Donc là, on a commencé, on avait un arrosoir, un chargeur de téléphone, du sopalin mouillé, une sorte de pistolet à eau.
Un corps de chasse,
des feuilles d'arbres.
Une sorte de fil de fer un peu crade avec du plastique autour.
Du sopalin mouillé qu'avait ramené Flavie.
Du sucre légèrement mouillé.
Ouais, j'avais fait un sirop en fait avec juste un sirop avec du sucre et de l'eau.
Et l'histoire
ma
du sopalin.
Ma barbe colle toujours.
Et l'histoire du sopalin, c'est parce que à la base Adrien voulait ramener du poulpe pour pouvoir faire des ustensiles et du coup comme il l'a finalement oublié.
Et alors la texture, ça ressemble à du poulpe ou pas du coup?
Je sais pas, j'ai pas testé le poulpe, tu sais Mathieu.
Et voilà. Et donc ensuite, c'est les joueurs autour vont pouvoir utiliser ces ustensiles, aller en chercher d'autres, ils ont d'autres idées qui leur viennent pour interagir avec le narrateur. Okay. En gros, le jeu, on a fait quoi? On a fait 5-6 tours, 5-6 narrateurs différents. On a parlé chacun une fois maximum. Et ça a duré quoi? 20 minutes?
Ouais, à tout casser
20 minutes.
Le jeu a l'air énorme. Le concept est génial. On s'imagine assis sur ce siège avec tout le monde qui approche des sopalins, des machins. Et donc, on s'imagine, on se dit, ce sopalin là qu'il est en train de m'appliquer, parce que j'imagine qu'en tant que joueur, on a quand même conscience que c'est Adrien qui tient un sopalin.
Mais alors, on voit les objets avant. Mais non, justement, parce que moi, j'étais la première à passer.
Flavie.
Et donc, j'étais la première à passer. Je me suis dit, je vais raconter le début d'une histoire d'amour cucu. On va aller acheter des glaces, quoi, face à la mer. Et en fait, C'est extrêmement sensoriel. C'est-à-dire, j'avais beau avoir vu tous les objets, j'étais incapable de déterminer ce que c'était, sauf quand je pense que c'était Adrien me jetait avec l'arrosoir de l'eau dessus.
Non, c'est moi, sur les pieds.
Ah ouais, c'est
moi.
Toi. Ouais, ouais. Et coucou. Et du coup, c'est extrêmement compliqué en fait de se concentrer sur un truc très simple que tu dois raconter, alors qu'il y a des trucs qui t'arrivent d'un peu partout.
En même temps, Adrien te lançait le ballon à la figure.
Ouais, ça c'était pas cool, Adrien. Mais et du coup, vraiment réagir en même temps, c'était juste énormément. Je décris qu'en gros, on achète la glace et que du coup, il a pas d'argent, mais du coup, qui donne une sorte de truc visqueux qui dans l'univers coûte hyper cher et que la dame est hyper contente. Et là, j'entends quelqu'un qui se m'écrie. Et voilà, et tu continues à dire un truc hyper cucu. Du coup, il m'a pris par la main, et là, j'ai senti plein de trucs arriver sur moi. Non, c'était hyper drôle, mais c'est extrêmement compliqué. C'est un tour de force de se concentrer, ce qui fait que très rapidement, tu dis et puis là, ça s'arrête la scène.
Voilà. Et j'avoue que moi, en fait, moi, j'étais incapable de me concentrer, en fait. Les stimulations étaient telles que j'arrivais même pas à me concentrer. Enfin, j'ai fait une scène qui a duré quoi, même pas 2 minutes, et j'étais incapable de sortir quelque chose de cohérent, en fait.
Mais
vous, alors moi je suis pas passé sur la chaise. Par contre, bon bah j'ai aidé au stimuli ambiant et à ce flot en fait de je sais pas d'émotions sensorielles, de sens, ouais, de sensations qui vous arrivent. Est-ce que vous avez pu penser à un certain moment que vous étiez face à une espèce de centipède géant, enfin ou je sais pas. Est-ce que vous êtes représenté parce que c'est ça normalement en fait qu'essaye de. Est-ce que pour vous ça vous paraissait crédible? Je sais pas, quand tu disais j'étais avec la glace et j'entends et là tu te dis peut-être, je sais pas, le centipède a bouffé la glacière ou je sais pas quoi.
Flavie, est-ce que tu t'es senti entourée d'un centipède?
Il y a eu un moment, notamment le moment où je dis et il me prend la main et il y a, je pense, tout le monde qui arrive et qui me touche quelque part là, et c'est vraiment là, à ce moment-là, j'étais là, ok, je suis avec un truc trop chelou. ça ressemble à, tu t'es avec un xénomorphe. Alors de là projeter un centipède, t'as tellement de sensations que c'est un peu compliqué, ouais, d'avoir les sensations en même temps le visuel, mais t'es avec un truc, ouais.
Broussaille.
Ouais, alors
Fabien nous rejoint.
La sensation. Alors ouais. Fabien qui a apporté ce jeu, hein, il faut le dire. My Centipede Boyfriend. Ouais. Broussaille,
il y a quelque chose de compliqué parce que en fait, je pense qu'il y a une expérience du bruitage aussi que moi personnellement j'ai jamais faite. Et de l'expérience sensorielle, c'est-à-dire que c'est très compliqué en fait. C'est vrai qu'on a un peu improvisé les objets qu'on a pris. C'est vrai que je me dis avec le recul, si j'avais pu choisir les objets à l'avance pour orienter vers telle ou telle sensation, j'aurais peut-être fait
ça. Plus riche.
J'aurais peut-être fait ça autrement.
Mieux.
En fait, je pensais, tu vois, par exemple, un truc tout bête qui m'est pas venu à l'idée, mais qui me viendrait là. Par exemple, prévoir à l'avance des glaçons, tu sais, dans un bol d'eau froide, tu vois, pour passer sur la peau. Des choses qui peuvent éveiller classiquement des sensations. Mais c'est vrai que là, on a improvisé un peu.
Et peut-être évoquer davantage l'érotisme, voilà, qu'un arrosoir,
voilà,
par exemple.
Et parce qu'Adrien nous a dit, prenez des objets que vous avez sous la main, et c'est vrai qu'on est allé chercher, enfin, ce qu'on a pu trouver, quoi.
Ouais. Donc,
Jérôme, je crois. Vas-y, d'abord.
Ouais, bah, en plus, ouais, après, sinon, on va pas s'en sortir. Parce que, en fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Broussaille. Sur le fait d'avoir le sentiment de ne pas réussir à se concentrer, de tenir 2 minutes et de balancer un truc incohérent. J'ai eu le même sentiment, et pourtant, enfin, quand j'ai terminé, on m'a dit si, c'était cool, et tout le monde a dit ça à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression qu'on a tous eu ce sentiment de.
Moi, de l'extérieur, c'est vrai que
les pédales.
Mathieu.
Enfin, tu vois, c'était cohérent, en tout cas, en termes. Après, c'était pas transcendant hein, comme histoire, mais par contre, elle était cohérente.
En fait, dans chaque cas,
hein,
si on prend la transcription du texte dit par le narrateur, il y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment, on a pris une glace au bord de la plage, j'ai payé la vendeuse et puis on est parti. On est allé au bord de l'étang, on s'est fait des bisous et puis il a attaqué un chien. Et voilà. D'un point de vue strict, il se passe rien. Mais en fait, il y a tellement d'interactions entre ce qu'on dit, ce qui est bruité. La scène, en fait, on la voit tous. Ça, donc, il y a quelque chose qui a lieu.
Il y a eu quand même un moment un peu plus, je dirais, d'ironie dramatique. C'est quand est venu le tour d'Alex, où il s'en prenait donc vraiment plein la gueule. Et il disait, il décrivait en fait, grosso modo, une relation avec le centipède. Et il disait, ah oui, c'était dur, mais je voulais aller jusqu'au bout. Et on continuait à lui en mettre. Et donc, en fait, on voyait bien qu'il y avait un double discours entre ce qui se passait dans la fiction et ce qu'on était en train de lui mettre... en plus, quoi.
Je pense que Alex, il y a une raison. Si je pense, on s'en. Parce que tu as commencé le moment où tu as fait, tu as commencé par la rencontre avec les parents, si mes souvenirs sont
bons.
C'est
ça, ouais.
Et ensuite, tu as embrayé sur la relation sexuelle, entre guillemets, avec le centipède. Et tu étais d'un tel sang-froid. Je pense qu'en fait, à un moment, on s'est dit, eh ben, Et ben,
on y va.
En fait, bravo. Vraiment, t'as eu un sang-froid de ouf.
Mais je pense en fait que la différence, c'est que je suis venu en dernier. Et que du coup, j'anticipais ce qui se passait.
Tu t'es préparé.
J'ai pu voir les instruments de torture qui ont été utilisés. Ouais. Et j'ai été moins surpris par certaines choses qui peuvent quand même assez surprendre, comme par exemple recevoir un jet d'eau. Voilà. Et d'ailleurs, je m'interrogeais sur la sensation qu'on pouvait prouver si aucun de nous, aucun de ceux qui passent, ne peuvent voir, a priori, les objets qui vont être utilisés avec eux.
Ah ouais, ça va être encore plus intense.
Alors, là-dessus, justement, voilà, c'est en réponse à ce que disait Broussaille tout à l'heure, c'est un jeu. Techniquement, Adrien, je pense qu'on peut y jouer sans accessoires, en fait. Hein. Les accessoires, c'est des petits bonus, mais les bruitages qu'on peut faire avec la bouche, le fait de pouvoir tourner autour, donc faire un bruit près de l'oreille, loin, pouvoir hurler, pouvoir surprendre, pouvoir faire courir les doigts sur le bras, sur le cou de l'autre.
Les doigts sur le bras, je crois que ça a été le pire, étonnamment.
En fait, on peut faire énormément de choses. Les accessoires, c'est des petits bonus, en fait. C'est pouvoir faire des bruits texturés, des autres choses. C'est intéressant. C'est pas ça, le cœur. Le cœur, en fait, c'est que... Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais quand j'étais l'humain. Les yeux bandés, c'est qu'en fait, je ne voyais pas le mille-pattes pour une raison très particulière. C'est que dans la fiction, je m'imaginais les yeux fermés, en fait. Parce que, déjà, moi-même, j'avais les yeux fermés. Mais en plus, il y a une telle surcharge qu'on... Enfin, je pense qu'en fait, on est typiquement le personnage dans Cthulhu qui a perdu toute sa sane et qui vit sa vie comme s'il n'y avait rien autour. Enfin, c'est vraiment...
Broussaille.
Oui, j'ai l'impression, alors je ne sais plus si c'est le terme technique, mais j'ai l'impression que chacun, quand vous êtes passé, alors j'étais peut-être dans le même état, on est dans un état de, c'est la fibrillation, je crois, où c'est comme quand t'as froid, tu sais, où tu commences à un peu trembler, te recroqueviller un peu sur soi. J'ai l'impression qu'on était tous dans ces états un peu...
Il y a peut-être un peu de ça. Moi, je me sens un petit peu différent là-dessus, mais je pourrais en reparler. Vas-y, Alex.
Ça va être bizarre à dire, mais au bout d'un moment, c'était presque excitant.
Ah non, mais ça ne m'étonne pas du tout.
Tout ton sang-froid. Mais en même temps, ce qui est rigolo, c'est que pendant tout le jeu, parce que t'es passé en dernier, t'avais une position, même pendant l'utilisation des outils et toucher les autres, t'étais extrêmement en retrait, en fait. C'est comme si t'avais analysé tout ce qu'on avait fait, que tu t'es dit, ok, donc je vais sentir ça, je vais sentir ça, je vais sentir ça. Et puis voilà, quoi. Enfin, t'as vraiment analysé le truc.
Oui,
quand moi je suis passée, j'avais rien analysé. C'était.
Mais complètement. Alex. En fait, j'y suis même allé parce que je me suis dit, ça a l'air vraiment, pour le coup, hein, si je voulais rester spectateur au début, mais pas à cause de la sensation de la personne assise. Ça, au contraire, ça m'intéressait beaucoup. Et je pense même que c'est le cœur du jeu. Et effectivement, je rejoins ton avis, Adrien, sur le fait que. Effectivement, c'est pas l'objet qui va définir l'expérience de jeu. Je suis d'accord. C'est vraiment la place et l'interaction avec les autres. Les yeux fermés, effectivement, ça fait beaucoup de choses.
Jérôme,
moi je confirme ce côté. Donc, comment tu disais, Broussaille, la fibrillation. Ce côté, l'impression d'être assis sur au milieu de, d'une place et d'être sous la pluie et de devoir attendre. Et à un moment, enfin moi vraiment, j'ai eu le sentiment d'être paralysé, vraiment, et j'ai arrêté de parler, je sais pas combien de temps, mais dans ma tête ça a paru super long. Et vraiment, il y a un côté où on hésite et on est non, et s'il vous plaît, faites que ça s'arrête.
Mais tes coups d'assaille.
mais grave.
C'est marrant parce que oui. Tu disais que tu connaissais pas les animés, mais justement, il y a souvent.
Non, mais j'ai un roux à côté de moi.
Non, mais alors, c'est marrant parce que oui,
et
c'est venu tout seul. Et c'est vrai que le jeu nous a jamais dit faites du Yamete Kudasai, mais enfin moi, je me suis retrouvé à en faire naturellement. Quoi.
Moi, c'était plus du le rire nerveux. Et oui, il fait ça avec la vendeuse.
Alors, oui, j'ai une comparaison que j'aimerais faire qui est que.
Ah, encore une comparaison.
Non, ça va pas être foireuse. C'est qu'en fait, ce jeu ressemble beaucoup, en tout cas sur le premier passage, au jeu d'impro de théâtre sur le travail de la confiance. Notamment on se met en cercle, il y en a un au centre, les yeux bandés, il va se laisser tomber, les autres doivent le ramasser. Et en fait, enfin le ramasser, l'empêcher de tomber, le retenir, le faire osciller un peu autour de la position. Et en fait, ce jeu a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'est pas passé, qu'on a la théorie du jeu, on est toujours un peu flippé, un peu étrange. Mais en fait, une fois qu'on y rentre en sachant un peu ce qui nous attend, qu'on l'a déjà fait, moi, l'ayant déjà fait, je savais à quoi m'attendre. Donc en fait, j'y allais complètement confiant, je suis en confiance, c'est-à-dire, ok, je vais avoir des trucs dessus, de l'eau, du machin, mais des bruits, mais c'est pas grave en fait, je suis avec des amis, ça va bien se passer.
Ça va bien se passer.
Au pire, je vais sursauter à un moment donné parce que quelqu'un va hurler, mais voilà. Et donc, ma position en tant que narrateur était différente, c'est que, enfin, moi j'ai eu l'impression d'avoir une position assez différente de la vôtre, c'est que j'ai été beaucoup plus acteur. J'ai notamment, pas rebondi sur des choses, mais j'ai dit, allez, il y a un chien là, va le bouffer, il me fait chier ce clébard. Et donc j'ai créé vraiment des éléments comme ça dans la fiction.
T'as sollicité des réactions.
J'ai sollicité des réactions.
Centipède,
hein. Et ça, en fait, je pense que c'est le fait d'y avoir déjà joué qui m'a permis de le faire.
T'es proactif.
Et hein. C'est une question. Enfin, là aussi, on est tous passés qu'une fois. Donc peut-être au deuxième passage, vous auriez eu cette proactivité parce que vous saviez où vous mettiez les pieds. Il y a une sorte d'apprentissage du jeu.
Ouais, juste, c'était un point négatif, mais c'est pas pour dire que le jeu m'a pas plu ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, au départ, on présente un mille pattes géant. Qui lance des lasers par les yeux, qui tue des humains et qui est multimillénaire, quoi que ce soit. Et je pense que, enfin, parce que le jeu demande beaucoup de choses, je pense qu'on s'est limité surtout, enfin, à part toi, mais parce que t'as déjà joué, on s'est limité beaucoup, c'est un mille pattes géant. Mmh. Le côté ouais. Qui lance des lasers, qui tue des humains, on est un peu allé vers là, et puis qui est multimillénaire. Enfin, je pense que là, il y a, enfin... Après, ça fait hyper vendeur comme ça parce que ça fait un pitch d'enfer. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu. Alors,
je pense pour que la c'est première, pour souligner l'étrangeté.
Voilà, il y a un peu de surcharge d'information. Alors qu'un mille pattes géant, je me dis ça en soi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais moi, je pense que si elle choisit de dire ça, c'est pour susciter justement le côté xéno de la créature. C'est-à-dire, ouais. elle a vraiment d'autres normes que toi. Tu vois, si tu dis juste un mille pattes, tu peux l'associer à ton mille pattes que
ouais,
tu as dans ton jardin,
Kafka,
etc.
En fait.
Ce que j'allais dire, tu peux voir Kafka. Et genre, c'était un truc qui était ouais. humain avant, et tu peux lui créer une histoire en fait.
Exactement.
Alors que là, le fait qu'il soit multimillénaire, tu vas pas pouvoir lui créer d'histoire. Le truc, il va rester étrange.
D'autant plus que tu nous l'as dit, Adrien, c'est dans les règles. C'est précisé que le mille-pattes est un mille-pattes multimillénaire, ce n'est pas un humain transformé, ce n'est pas...
Ouais, ça c'est important quand même, effectivement. Ouais, on ne peut pas l'humaniser,
il ne peut pas évoluer.
On ne peut pas l'anthropomorphiser.
Non, il ne peut pas évoluer, parce que j'avais pensé à un moment, est-ce qu'il est possible qu'il devienne un chrysalide, papillon ou quoi que ce soit? Non, il doit rester mille-pattes.
Je vais lire le dernier paragraphe des règles, c'est... La continuité entre les scènes n'est pas très importante, les scènes n'ont pas besoin d'être connectées, il n'y a pas besoin d'avoir une intrigue, des personnages entiers... Même le narrateur peuvent disparaître, être réécrit, du moment que tout le monde a un bon moment. La seule exception à cette règle, c'est le mille-pattes. Le mille-pattes est une constante et doit rester. Le mille-pattes ne peut jamais être changé, le mille-pattes ne sera jamais changé. Et en gras, do not change the centipede.
Ouais. C'est génial. C'est...
Et donc là-dessus, moi, il y a un élément sur lequel j'aimerais venir, qui est un élément sur lequel nous on avait beaucoup discuté avec Fabien, Valentin et Antoine, je crois, qui en avaient joué la première fois à Paris. Qui était, quelle est notre interprétation du jeu? Qu'est-ce que vous pensez qu'essaye de quoi parle le jeu, en fait?
Quel est le propos du
Nous,
jeu?
Moi, j'ai une réponse sur laquelle on était venu. Je vous invite, ouais, est-ce que vous avez des réponses? Je préfère vous laisser parler et après dire nous qu'est-ce qu'on a
avant, comme avant de répondre à cette question, et comme ça va à tous vous laisser un temps pour réfléchir à votre réponse. J'aimerais quand même qu'on passe la parole à Darky et à Emmanuel qui n'ont pas pris la parole pour le moment pour dire juste ce que vous avez pensé du jeu et de l'expérience. Darky d'abord.
Moi j'ai kiffé, je pense qu'il me faut 18 minutes 50 pour rentrer dans un jeu. Cette partie a duré 18 minutes 50. Ouais. Donc, au moment où j'avais envie de m'asseoir, j'étais dans la position où je m'ennuyais en tant que bruiteur. Donc je me doutais, je pense qu'on avait tout fait, on ne pourrait pas jouer 2 heures à ce jeu. Oui. C'est qu'il y a un nombre de joueurs limite qui peut s'asseoir avant qu'on commence à s'ennuyer. Le moment où je me serais bien assis, c'était le moment où on s'est tous dit « Ah bah ce serait bien de faire la scène de fin avec les parents », ce qui ne m'inspirait pas. Du coup j'ai laissé passer. Du coup j'ai qu'une semi-expérience du jeu, clairement, parce que je pense que le jeu tu le vis vraiment quand tu t'assois et que tu subis tout ce que tu subis. Mais clairement, son propos qui est... Enfin, je sais pas si c'est son propos. En tout cas, faire vivre un truc loufoque où tout le monde fait un peu n'importe quoi en ayant une idée de ce que ça génère chez l'autre et de voir l'autre qui a l'air complètement prostré. Et l'autre, quand je dis l'autre, pardon, c'est la personne avec les yeux bandés. Ce truc-là fonctionne. Je pense qu'il est fonctionnel comme jeu sur 3 pages. Et sur le moment, je me disais, ok, clairement, je suis en train de vivre un jeu, j'y rejouerai jamais. Bah finalement je suis en train de me dire j'aimerais bien le retester au moins pour avoir le temps de m'asseoir. Donc et sur 3 pages c'est peut-être un petit exploit quand même de se dire j'ai envie de le réessayer. Donc il m'a bien amusé quand même.
Emmanuel.
Alors moi je suis pas passée sur la chaise. Alors pour
t'as
le...
pas voulu passer sur la chaise. Mmh. On dirait que tu dis j'ai pas voulu passer sur la chaise.
Ouais. Globalement, alors déjà en tant que bruteur, enfin que centipède, j'ai testé un peu, j'étais un peu en mode expérimentation, à dire qu'est-ce que ça donne quand je suis sur un bruit très près de la personne, quand je fais un bruitage très loin, le contact avec un objet, le contact avec les doigts. Avec le contact avec les doigts, j'ai senti que avec l'ail tout. Mais voilà, enfin j'étais un peu dans ce côté expérimentation, et une fois que j'ai eu la sensation d'avoir un peu tout expérimenté, j'étais un peu comme toi, Darky, de dire là je m'emmerde. Mais en même temps, voilà, alors passer sur la chaise, j'étais pas contre sur le principe. L'idée, c'est que c'est un truc que j'aurais aimé pouvoir traverser, peut-être un peu comme Alex 2, avec ce côté pouvoir aller y chercher soit une excitation, soit une ambiance, soit un truc. Enfin, j'ai peut-être trop cérébralisé le machin, mais vu la façon dont ça attaquait à chaque fois, je me suis dit en fait, je vais être juste en train de ricaner, d'être chatouilleuse à mort et de faire ah quand je me prends de la flotte dans la gueule. Du coup, je me suis dit tout simplement que c'était peut-être pas tout à fait à ce jeu-là que j'avais envie de jouer, qu'il y avait un truc qui potentiellement pouvait m'intéresser, mais que le jeu tel,
la mécanique,
ouais, mais voilà,
t'aurais voulu le développer bon, on va
autrement,
passer
je sais pas,
de façon plus sexuelle, connaissant tes goûts, Emmanuel. Non mais c'est vrai,
même pas forcément. Alors oui, ça aurait pu. Alors
t'aimes bien l'érotisme, t'aimes bien ce genre de choses.
Je suis très branché érotisme. Après du coup, s'il avait fallu l'orienter érotisme, je l'aurais pas fait dans le jardin. Peut-être pas à 8 et peut-être pas
pistolets à eau,
peut-être pas avec des pistolets à eau et des ballons en mousse et des corps.
Il y a quand même un potentiel érotique énorme dans ce jeu.
Il y a un potentiel érotique, il y a un potentiel d'ambiance aussi. Ce côté planant qu'on peut avoir quand en théâtre ou en impro, on se met vraiment dans un truc et où on rebondit, parce qu'Adrien il dit rebondir pour construire l'histoire, mais il y a un moment où ça peut devenir vraiment que ça fasse naître une émotion et que du coup tu verbalises cette émotion, tu vois, enfin vous voyez ce que je veux dire, vraiment être dans quelque chose qui deviendrait où tu essayes de te mettre dans une espèce de transe. Moi ce que je viens de voir me donne envie d'un jeu comme ça.
D'accord,
avec ou sans érotisme, voilà, que ce soit en ambiance ou en érotisme.
Eh bien,
donc frustré.
D'accord. C'est le grand moment de faire ce tour de table et d'interroger les gens autour de cette table. À votre avis, quel est le propos du jeu ? Et j'ai envie de commencer par Adrien. C'est toi qui poses la question, c'est toi qui vas y répondre le premier.
Très bien. Bah, nous, tu voulais en parler, Jean ? Bah, c'est ce que je proposais, mais...
Ah, tu voulais le faire en dernier à la base ?
C'est ce que je proposais,
toi, t'avais déjà réfléchi.
Je serais curieux d'avoir votre opinion.
D'entendre ta réponse, ça va nous permettre aussi de savoir qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que ta question sous-entend et qu'est-ce que tu veux nous dire.
En fait, nous, la remarque qu'on s'était faite, c'est que... déjà, c'est une relation de couple avec un mille-pattes qui tue des gens, qu'on ne pourra jamais changer le mille-pattes, qui sera toujours là dans cette relation de couple. Pour nous, c'était assez explicitement une relation très dysfonctionnelle, voire même abusive.
Abusive.
Et en fait, ça passe par plein de choses. C'est que le narrateur parle tout seul, le centipède, lui ne fait que des bruits, et le dialogue est à sens unique. Le fait qu'il y ait une certaine violence, parce que malgré tout, les règles disent, je le reformule, le seul moment où on parle du consentement, du toucher, c'est prévenez tout le monde, quiconque ça soit pour être le narrateur sera probablement touché, donc discutez brièvement de où on peut les toucher et comment ça serait approprié, utiliser le common sense, donc le bon sens, pour savoir, voilà. Et en cas de doute, rester aux bras et aux épaules. Il n'empêche qu'on a décidé des choses, mais malgré tout, c'est très très compliqué dans le feu de l'action de savoir si oui ou non tout le monde l'a respecté, s'il n'y a pas des choses qu'on a faites. Typiquement, Fly, il avait dit pas les cheveux, j'ai utilisé le pistolet à eau, je l'en ai mis dans les cheveux. Bon, c'est que de l'eau, tout ça, mais il n'empêche qu'il y a une forme de situation où on est dans une tension qui peut être très 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 très, très grave, en fait. Hein. Donc cette,
mais je pense que le dispositif est assez clair là-dessus, quand même.
Alors oui, bien sûr, mais dans beaucoup de situations abusives aussi. Hein, c'est que oui, t'es dans une situation abusive, tu sais que t'es dans une situation abusive, mais t'es prisonnier.
Flavie, tu veux intervenir ?
Moi, je veux absolument intervenir après ça, parce que je pense qu'en fait, tu rates quelque chose du jeu. En fait, moi, ce jeu, il m'a fait penser... Je sais pas si vous avez déjà vu le film Histoire d'eau, un film érotique des années 80, hyper connu. Et moi, en fait, le propos, c'est le même, en fait, qu'Histoire d'eau. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, au début, en fait, on pense que ça va être quelqu'un totalement soumis et qui va prendre... En fait, la personne est soumise, mais c'est elle qui garde le contrôle, en fait, de la narration. Et dans le film Histoire d'eau, la nana qui est soumise, en fait, elle va finalement prendre le contrôle sur les relations sadomasochistes qu'elle a. Et en étant la soumise, en fait, va prendre le contrôle sur l'intégralité des gens autour d'elle. Moi, j'ai trouvé que ce jeu... En fait, permettait par l'exploration de la sensualité, tout en étant totalement soumise, en fait, de t'obliger à prendre le contrôle, voire même à un moment de dire stop, mon histoire est finie. Moi, je pense qu'au contraire, c'est un jeu qui te pousse à apprendre à dire stop et qui te pousse en fait à prendre dans une position de soumis, qui te pousse à dire non, je ne suis pas soumis, je garde le contrôle de la narration, je vais être capable de réagir à ce qui se passe autour et de dire stop, maintenant c'est fini. Et ça, c'est hyper fort.
Jérôme hein.
Ah bah non, mais juste bravo.
Tu applaudis des deux mains cette analyse, t'es d'accord avec Fly. Broussaille.
Oui, je rejoins Flavie. Il y a un truc pour moi, enfin, dans le BDSM, c'est le soumis qui docide, de base. Enfin, ouais. C'est quelque chose que tu comprends en faisant du BDSM. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'en avoir fait des années. Quand tu es assis sur la chaise, tu sais très bien que c'est toi qui es en contrôle. Parce que l'autre peut faire des trucs, mais il est toujours obligé de se dire « Est-ce que là, je vais pas contre le truc ?» Alors que celui qui est sur la chaise, il peut dire « Stop » à tout moment. Enfin, il peut terminer la scène à tout moment. Et il peut, donc, ce qui convient à refuser un geste, et il peut se permettre des remarques parce qu'il parle. Il est le seul à avoir la parole. L'autre ne peut pas dire est-ce que là, j'ai fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Donc, ceux qui sont autour sont obligés de se contrôler. Celui qui est en position d'être soumis ne se contrôle pas. Donc, on est vraiment dans... C'est le soumis qui maîtrise la relation. Il y a une façon aussi d'exclure l'autre parce que c'est ma relation. C'est moi qui décide. Et en fait, je parle des sentiments de l'autre. Parce que finalement... Les sentiments qu'éprouve le centipède, le mille-pattes, c'est moi qui décide de quel sentiment il éprouve. Et je reviens à l'inspiration Belle et la Bête, ça m'a fait aussi penser à ça. Dans La Belle et la Bête, c'est l'histoire de la belle, c'est pas l'histoire de la bête. Mmh. Et donc on est vraiment pour moi dans le... Enfin, on parle de sa relation à soi. Après... Voilà, j'ai l'impression que le centipède, il est là, mais c'est un peu le grand absent. Il peut que se manifester de la façon la plus... c'est lui qui a le mauvais jeu, qui est celui qui peut le moins s'exprimer, en fait. Il s'exprime comme il peut, en fait.
Est-ce que le...
Adrien puis Manu, hein, parce que Manu avait demandé la parole.
Excuse-moi. Est-ce que le passage où tu as été tétanisé, c'est pas le centipède qui a gagné, tu vois, qui t'a...
Il a dit stop.
Ouais, mais il a pu dire stop.
Oui, bien sûr. Ouais.
Manu.
Moi, je trouve ça assez hallucinant parce que sur le spectacle qu'on est en train de bosser, là, c'est exactement. Ça fait partie des trucs qu'on traverse et ça fait partie du coup des discussions qu'on a eues il y a deux jours.
Qu'est-ce que c'est que ce spectacle?
Poésie érotique. Des textes érotiques qu'on a écrits, qu'on met en scène et que du coup on joue format une heure face à un public adulte, mais zéro nudité, zéro acte sexuel, etc. Voilà, pour remettre un peu dans le contexte. Tout passe par la parole, et puis quelques jeux de scène. Bah, voilà, là, ça y est, il existe, en vrai. Et du coup, il y a eu un gros débat à la fin, et qui a repris exactement les positions de Flavie et Adrien, d'une nana qui... elle avait connu des relations abusives et qui parlait de soumission et qui voyait cette soumission comme quelque chose de malsain, de destructeur, et qui d'ailleurs nous reprochait que nous, la femme, soit en position de soumission dans le spectacle, alors qu'elle aurait aimé voir l'homme soumis, etc. Et en fait, au fil du discours, ce qui s'est dévoilé, c'était cette différence-là entre ce qu'elle appelle soumission, qui est effectivement une soumission psychologique, et ce dont parle notamment Broussaille, ouais, qui est ce jeu de soumission, et du coup moi je mets toujours jeu de soumission Manu avant, tant pis pour ceux qui perdent au jeu. Et,
je te coupe juste, hein. Ouais. La situation qu'a vécu, enfin je veux être clair, là c'est mon côté un peu militante, mais oui. Elle n'a pas vécu une relation de soumission, cette femme, elle a vécu une relation d'abus. C'est un abus sexuel. La soumission... c'est quelque chose de volontaire, de consenti. L'abus sexuel, c'est quelque chose qui est ni consenti ni volontaire.
Oui, ouais, ou même sans que ce soit...
la soumission, là, c'est le sens que tu donnes aujourd'hui.
Dans le cadre du BDSM.
Soumettre, c'est se mettre sous quelqu'un. Se mettre soi-même
sous quelqu'un. Est-ce que tu te soumets parce que tu es en totale liberté de tes décisions?
Tu peux soumettre quelqu'un.
Alors oui, après, il y a d'autres...
Je comprends la distinction que tu veux apporter.
Je comprends tout à fait la distinction, mais je dis attention, ça reste des questions de vocabulaire.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va l'employer. Dans le cas précis d'une femme qui a vécu...
C'est un abus, et on est d'accord.
On ne va pas dire que la femme a vécu, c'était pas une femme soumise. Pour moi, c'était une femme abusée, en fait, qu'on soit vraiment clair.
Parce que finalement, quand dans le cadre sexuel, BDSM, ou même des choses beaucoup plus soft, tu dis je suis en position de soumission, c'est pas je suis pas une femme soumise, c'est je me mets dans un jeu, ouais, potentiellement à certains moments en position de soumission. Et c'est aussi là qu'on a un énorme pouvoir par rapport à celui qui prend la position de dominant, c'est qu'en fait à chaque nouvelle séance, à chaque nouvel instant, on est encore en train de redéfinir. Je te donne tant de soumission, donc je te donne tant de pouvoir sur moi, je peux en reprendre, on peut revenir en arrière, je peux aller plus loin, on peut avoir une gradation et tout. Et en fait, ça demande au dominant d'être énormément à l'écoute de façon à justement ne jamais dépasser, sinon le jeu s'arrête. Et voilà. Et là, peut-être ce qui manque un peu entre les... Enfin, le fait que certains d'entre vous, finalement, se soient retrouvés prostrés, à des fois à la limite de dire stop sans trop savoir si arrêter ou pas arrêter... peut-être que pour qu'on rentre vraiment dans un jeu et qu'on puisse y faire apparaître quelque chose de sensuel et d'érotique, peut-être qu'un poil plus d'écoute et de finesse dans on va plus loin, on va moins loin, je sais pas.
Flavie.
Pour moi, c'est pas un jeu sur l'érotisme, c'est un jeu sur l'apprentissage du moment où on va pouvoir dire stop. Moi, j'ai trouvé ce jeu extrêmement cathartique. Déjà, parce qu'en fait... on sait que si on dit stop, les autres vont arrêter naturellement. Donc c'est vraiment le jeu qui va te dire, où tu vas être obligé de te dire pourquoi est-ce que je veux continuer, pourquoi je veux arrêter. Et d'ailleurs, j'en prends pour preuve le fait qu'à chaque fois quand on était en train de parler, on se retrouvait à expliquer pourquoi on continuait ou pourquoi on voulait être avec le centipède, alors que le moment où on dit stop n'a pas besoin d'explication. On dit juste j'arrête et ça s'arrête. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement cathartique et extrêmement agréable.
Qu'est-ce que tu entends par cathartique ?
Parce que... dire stop ou dire non, c'est extrêmement compliqué en fait dans cette société.
D'accord. Ouais.
Et je pense que c'est pas uniquement un jeu sur la
sensualité. T'as plutôt envie de dire libérateur que cathartique.
Ouais, ouais, c'est vraiment. Mais
émancipateur.
Même parce que,
t'as peur de te comparer à un mille pas de géant, Romain.
Moi, j'ai trouvé que ce mille pas de géant était presque une métaphore en fait. Même on peut même aller plus loin. Une métaphore de l'administration ambiante ou de l'univers entier qui t'abreuve de trucs que tu dois avoir, que tu dois accepter. Et là, c'est le pouvoir de dire non, quoi. Ouais.
Je suis d'accord, c'est un peu ce que je disais quand c'était un jeu qui parlait de relations abusives. Ça en parle sur l'aspect de aller dire non, aller jusqu'à se dire non. Mais il n'empêche qu'il te met dans cette position-là.
Mais c'est pas uniquement là, c'est vraiment pour moi, ça peut même être le fait que tu sois abreuvé de trucs publicitaires,
oui,
plein de choses qu'on te demande de faire, etc. Moi je trouve que c'est un jeu qu'il faut faire en fait, qu'il faut tester au moins une fois.
Enfin, sachant quand même que la différence, c'est que là, t'es sûr que quand il dit non, t'es entendu.
Oui,
et
c'est
dans
important.
La société, quelquefois, tu dis non, tu dis non avec l'État. Enfin, on va avec dire, on prenait la métaphore. Ouais. Tu dis non avec l'État, c'est un non qui...
Mais l'État est monstre
ne...
froid.
Hein.
Ouais,
qui c'est, ne
c'est presque pas une
là,
mort. Hein.
Là, tu pouvais être sûr.
Et il n'empêche qu'il y a pas mal de gens qui n'osent jamais dire non parce que oui. Et là, en fait, on te donne l'occasion de le tester une fois et tu vois qu'en fait, tout va bien et ça peut peut-être te donner l'occasion ensuite d'avoir la possibilité de le dire.
Il faudrait que Macron joue à Human Centipede.
Et avec le comment peut-être. Non, c'est pas Human Centipede, ça c'est un autre film.
Alors, Macron Human Centipede, c'est intéressant. Non, mais
accrochez-lui quelque chose.
Mais là, c'est presque une menace de mort,
vois,
comme ça.
En fait, il y a deux choses, je pense. Il y a aussi, on a parlé beaucoup d'hentai, mais c'est pas obligé d'être sexuel.
Il n'y avait pas de trucs sexuels.
Et je sais que par exemple, la dernière scène, alors qu'il était, je pense, en contrôle parce que c'était le dernier. Enfin, Fly et moi, on est passé les premières, donc c'est vrai que ça, on sait pas trop à quoi s'attendre. Mais quand Alexandre II est passé en dernier, il était en contrôle et on voyait qu'en fait, il avait envie de continuer. Il y a plein d'indices. Il dit, c'est sale, mais j'ai envie de. Et en fait, il verbalise en plus à chaque étape son consentement. C'est-à-dire, c'est sale.
Ouais, ouais.
Mais continue, tu vois.
Ouais.
Donc, c'était important justement que la personne qui a les yeux bandés, c'est elle qui parle et pas l'autre. Nous, on aurait pu dire, ben non, on a envie d'arrêter, mais en fait...
Oui, c'est vrai qu'on a précisé que mais il faut rappeler que le centipède n'a pas le droit d'exprimer des propositions verbales.
Le centipède a le droit de mettre fin à une scène. Si jamais... les joueurs autour, si jamais ils sentent que la scène dure trop longtemps, etc., ils peuvent arrêter.
C'est même plus que ça. Tous les autres joueurs n'ont pas le droit de parler une quelconque langue. Même si un autre humain... Tu sais, on peut jouer le décor, on peut jouer autre chose, mais on peut pas jouer des personnes qui parlent.
Les personnes qui parlent, tu vas faire des...
Ouais, d'accord, ok. Alex, tu voulais parler ?
Ouais, ce qui me semble intéressant, c'est la façon dont les rôles vont s'échanger entre le protagoniste et le centipède, enfin l'environnement, les autres joueurs, pour décider de l'orientation de l'histoire, de la fiction. Parce que en fait, j'ai le souvenir sur mon histoire d'avoir fait évoluer un peu en quittant les parents pour une relation interdite dans la forêt avec le centipède. mais je n'ai plus le souvenir de savoir si c'était vraiment mon entre guillemets libre arbitre ou les bruits, la pression sociale, bon, relative, hein, mais bon, ou les bruits, l'influence des autres. Et là, il y a une ambiguïté en fait.
Nous, la partie qu'on avait fait avec Fabien, Antoine Adrien. Et Valentin. Il y avait plein de situations où on allait genre chez le psy, mais en fait, les bruits de centipèdes qui n'arrêtaient pas de dévorer des humains faisaient que, en fait, pour le narrateur, c'était obligé de considérer que en fait, la plupart des personnages humains mouraient, en fait, dans la fiction. Et donc, le centipède isolait complètement l'humain. Enfin, c'était... Donc, cette forme de... Le centipède a quand même un pouvoir sur l'humain et est quand même très présente et peut être très présente selon comment ça se joue. Donc, ici, on a eu une vision... presque idyllique hein, de la relation. Les parents, a priori, sont encore en vie. Il y a juste une vendeuse de glace qui s'est fait bouffer.
Moi, ça m'évoque aussi des œuvres comme King chien. Kong, par exemple. La Belle et la Bête, tu disais tout à l'heure, Broussaille.
Mais c'est quand même toujours la personne qui en contrôle, donc la personne assise, qui décide qu'ils sont bouffés ou pas. Il n'y a pas, enfin, pas d'injonction du centipède.
Bien sûr.
Même si on entend des cris d'humains, c'est peut-être des cris de peur, c'est peut-être des gens. Enfin, quand on a fait crier les parents parce que Alex.
Ah si, c'est ça, c'est Alex.
Alex 2. Oui, Alex, excuse-moi, j'ai.
Le retour d'Alexandre.
Nous a dit les parents ont peur et réagissent mal. Et c'est vrai qu'on a eu des cris de parents. Il aurait pu dire bah voilà, le centipède. Enfin, le mille pattes dévore les parents. Mais enfin, ça n'a pas été évoqué, en fait. Hein. On aurait pu dire que les parents se réfugient ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'injonction. Hein.
Très intéressant. Jérôme
En fait, on n'en a pas le droit, si j'ai bien compris les règles. On est censé jouer des scènes de romance et de vie quotidienne et d'amourette, quoi.
Avec un mille pas de gens qui tirent des lasers par les
oui,
yeux.
Oui, mais t'es pas censé jouer Blair Witch, le face caméra, en train de dire « Pardon, papa, pardon, maman, il va me tuer maintenant, je le sais, il arrive !» T'es pas censé jouer ça, quoi.
Oui, mais la seule chose qui n'a pas le droit de changer dans la fiction, c'est le centipède. Du coup, ça peut changer.
Oui, mais on a joué vachement romantique, je trouve.
Oui,
c'était chouette.
Je lui ai fait à manger.
Ouais, carrément.
En même temps, il y a. Alors, je sais pas si c'est dans les règles où tu nous l'as dit. Il va voir un psy et il essaye de changer.
Oui,
on nous
oui,
dit. On nous dit dans la base. Là, ouais. Donc, c'est pas un tueur sanguinaire. Il tue, mais. Enfin, non, je sais pas.
Il en fait peut-être pas exprès.
C'est un tueur sanguinaire, mais qui aimerait bien changer.
Ben oui.
Un
voilà,
il y a. Cyclope, ben, je sais, dis. Peut-être que ses yeux tirent des lasers
voilà,
naturellement.
C'est la Belle et la Bête. Hein, je veux dire, il a l'air effrayant au départ, mais en fait, il peut peut-être rien, quoi, en fait. Je ne sais pas ce que disent les règles là-dessus précisément.
Alors le mot psy, en fait, c'est moi qui l'ai rajouté parce que c'est un truc qu'on avait dû se dire quand on avait interprété les règles avec Fabien, Valentin et.
Qu'est-ce que disent les règles texto?
Alors ce qu'a dit texto, c'est que le mille pattes est amoureux du personnage humain, mais qu'il est aussi struggling with some bad habits. Donc il lutte contre des mauvaises habitudes qui sont manger des humains,
ouais, donc
tirer des rayons de la mort,
parce que
dominer le monde.
Il y a vraiment l'idée qu'il se bat contre ses habitudes.
Il se bat contre
ses habitudes. C'est pas qu'il assume du tout ce côté.
Très très bien. Bah, quelle expérience incroyable. En tout cas, à vous écouter, ça a l'air vraiment, ça fait envie.
Enfin, tu veux
ça...
que je te dise, ça ressemble à
ça a l'air d'être complètement fou. Jérôme, tu voulais ajouter?
Ouais, je me frotte toujours le cou, j'ai encore du sucre.
Bon, bah, je sais pas, est-ce que vous avez un dernier élément à ajouter? Je pense qu'on a bien compris.
Oui,
Mathieu.
Vas-y.
Donc moi, hormis ce propos-là hein, que vous avez bien développé, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était les éléments qui étaient mis en place pour susciter toutes ces émotions-là. Peut-être que puisqu'on la question c'était quel est le propos du jeu, etc. Donc peut-être qu'il y a ça et peut-être aussi c'est une manière de pouvoir mettre un joueur vraiment à la place. Peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a aussi.
Tu as vu une tentative d'immersion complètement folle.
Ouais, le cinéma 4D, quoi.
C'est, ouais, exactement, c'est ça. Voilà. Et je me
en
demande.
Odorama.
Ouais, c'est.
Non,
c'est
odorama, ouais.
Je me demande si c'est pas aussi, voilà, une espèce d'exercice de style qui a pu. Enfin, la personne a pu se dire ça aussi, quoi. De se dire, ouais, si je me mettais vraiment à la place, est-ce que je sors vraiment avec un. avec un centipède géant cthulhesque ou ce que vous voulez, et qu'est-ce que ça ferait, etc.
De toute façon, je sais pas ce que t'en penses, Mathieu, mais tous les jeux dans lesquels il y a une mécanique du type bander les yeux d'un joueur ou d'une joueuse, c'est évidemment c'est qu'on recherche une certaine forme d'immersion, parce que par définition, le plongeon, c'est quelque chose qui nous coupe nos sensations les unes après les autres. J'ai entendu parler de cette expérience des pompiers de Paris qu'on avait plongé dans un bassin en combinaison. Pour l'idée, c'était qu'évidemment, ils puissent avoir le moins de sens possible. Ils avaient le nez bouché, les yeux fermés,
ouais,
les oreilles.
Je pense
bouchées.
Qu'il y a du bleed, ouais. La volonté, c'est de. Ouais.
Les types sont remontés d'ailleurs au bout de quelques secondes seulement parce qu'ils commençaient tous à avoir des hallucinations. Leur cerveau ne tolérait pas en fait qu'il y ait zéro input au final.
Oui, non, mais je pense que c'est la volonté. La volonté, c'est de créer du bleed, hein, en fait.
Je pense aussi.
Donc dès qu'on ferme les yeux, on est dans un jeu qui pousse justement à une certaine forme de concentration, donc d'immersion et compagnie en rapport
Oui, une question que j'aimerais poser avant qu'on conclue.
J'avais un copain qui faisait du chamanisme et qui adorait la plongée, qui faisait un lien entre les deux activités. Il disait en fait qu'à partir du moment où on se plonge comme ça, où on se coupe de certains sens, on est forcément dans une recherche d'une certaine forme de transcendance, etc. Parce que justement, en voulant se couper de ses propres sens, on entend mieux le battement de son cœur, battement qui rappelle le tambour qui rappelle l'hypnose et qui nous plonge en fait progressivement dans des états de.
Ouais, c'est plus une expérience sensorielle que érotique, contrairement à ce que laisse présupposer le propos. Peut-être, on est plus dans du sensoriel pour moi, même si on peut rajouter de l'érotisme, hein, c'est suggéré, mais on est d'abord dans une expérience sensorielle, je pense.
Adrien, tu voulais dire.
Ouais, j'avais une dernière question pour vous tous, qui est-ce que vous y rejoueriez ? Dans quelles circonstances ?
Darky a déjà.
Parce qu'en fait, la remarque qu'on s'est fait, moi, les deux parties, hein, c'est on y joue 20 minutes et après, c'est bon, ben voilà, on a fait le tour du jeu, quoi.
D'accord, ouais. Darky.
Vous y avez joué 20 minutes à 4, c'est ça ?
Ouais.
Donc chacun est passé sur la chaise.
Deux fois, grosso modo. Alors, pas tous, parce que Valentin, il a fait oula, les scolopendres, je vais faire des bruits, quoi. Voilà. Et c'est tout.
Moi, à mon avis, c'est Adrien, c'est parce que on n'y voit pas une autre finalité que de jouer à My Centipede Bot Friend. Alors que si tu dis, OK, on va vraiment essayer, par exemple, on va prendre des stupéfiants avant, on va essayer de se mettre, tu vois, et on va essayer vraiment de jouer à se faire peur, par exemple. Ou au contraire, ça va être nos préliminaires pour une expérience BDSM. Tu vois, si tu as une autre finalité que le jeu, je suis sûr que tu y rejouerais avec grand plaisir. Mais je pense que le jeu, My Centipede Boyfriend pour My Centipede Boyfriend, puis vous êtes des analystes aussi, là, tous les quatre.
Moi, j'y rejouerais avec joie. Moi, j'y rejouerais avec joie.
D'accord.
Moi, je pense que j'y rejouerais aussi. Hein.
Mais genre là, justement, tout de suite, on fait une
pareil. Ouais, parce qu'en fait, je voudrais bien, maintenant que j'ai un petit peu plus un peu vu ce que c'était, je voudrais bien essayer de provoquer des réactions, de faire des trucs, en fait. Maintenant, j'ai vu comment ça marche, on va rigoler un peu, quoi.
Après, ça reste un petit jeu. Si vous avez prévu une partie de 6 heures ce soir-là, jouez pas à My Centipede Boyfriend, quoi.
Ou alors vous allez
au bout d'une
souffrir,
demi-heure. Hein. Enfin, je pense qu'au bout d'une demi-heure, enfin, entre guillemets, on va avoir fait le tour.
Ouais,
mais
carrément.
C'est pas 4 heures de jeu. Ouf, là, je pense que non, c'est pas. Alors, prévoyez pas une partie. Enfin, oui, voilà.
Ou alors il faut une expérience où on se donne vraiment des contraintes. C'est genre, on teste un bruitage et on l'applique pendant 10 minutes. Hein, parce que sinon, si vous faites le tour de tous les bruitages en 20 minutes, vous allez vous lasser.
Jérôme,
je me posais la question c'est à force d'entendre le titre, vraiment à chaque fois j'y pense et vraiment je sais pas à quel point c'est fait au hasard ou pas, mais le jeu me fait aussi penser à Atoful Boyfriend, qui est un jeu sur PC dans lequel c'est un visual novel, on suit des romances, tout ça. Sauf que dans le jeu, en fait, tous les humains,
Jérôme,
tous les mecs, pardon, c'est un jeu où on joue une femme qui romance des hommes. Dans les visual novels, c'est plutôt le contraire habituellement. Et dans ce jeu-là, tous les hommes sont représentés par des piafs, par des pigeons en l'occurrence. Et donc, Randy, il a une tête de pigeon avec le col un peu bleu, il a une tête de pigeon tout blanc. Et le jeu, apparemment, est tellement bien écrit qu'il a eu un succès critique auprès des fans de visual novel assez dingue. Alors qu'il n'y a pas. Enfin, là, pour le coup, c'est pas le hentai qui a attiré les gens, tu vois.
Ouais, je comprends.
Et voilà, je sais pas.
Alex 2, est-ce que tu rejouerais à Human Centipede pour prolonger la question d'Adrien ?
Alors moi, j'y rejouerai.
C'est pas Human Centipede, hein, vraiment. Parce que Human,
c'est quoi alors The Human
Centipede?
C'est trois
films. Enfin, gore. Film. Sur des
Pourquoi
humains.
Je confonds avec
c'est
ça.
Sur des humains cousus, bouche à anus.
Ça, c'est parce que tu m'en parles tout le temps d'ailleurs.
Ah bah ouais. Le 2 est une pépite. Hein.
Okay. Donc en fait, c'est un film.
Human Centipede, c'est le mot centipède. Mais il y a seulement le mot mille pattes. The Human Centipede, c'est un film d'horreur.
C'est là que ma dyslexie apparaît au grand jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais des confusions dans les titres et je m'en excuse. Désolé pour Aura Bell. Donc, on parle bien de My Centipede Boyfriend. Est-ce que tu rejouerais à My Centipede?
En tout cas, pour Tremonde, effectivement, j'y rejouerai au moins une fois parce que j'ai quelques curiosités. J'aimerais légèrement modifier le dispositif juste pour tester. Éventuellement, avec
d'autres
personnes.
Qu'est-ce que tu as envie de
personnes.
Modifier dans le dispositif?
Alors, ce que je disais, par exemple, ne pas montrer les objets.
Ah oui, d'accord.
Même, je m'interroge sur l'idée, ça changerait le propos, hein, mais sur l'idée de changer, de décaler certains éléments du, on va dire, de la situation narrative. Juste de voir ce que ça changerait.
D'accord,
ouais. J'ai tendance à penser que, même si le propos est assez intéressant, il est au service d'une intention de jeu, plus que l'inverse. Mmh. Et c'est pour ça qu'un centipède a été choisi, parce que ça suggère beaucoup de toucher, de quelque chose de tactile.
D'accord,
donc c'est vraiment au service d'un dispositif de jeu, je pense. Mmh. Voilà, donc voilà, cette curiosité-là. Puis sinon, même comme ça, avec d'autres personnes ou les mêmes.
J'ai vu dans les règles, ils proposent d'y jouer en convention, hein. Ouais. Donc genre il y a toute la foule et puis il y a trois personnes et puis il y a de la sono, des confettis, des plumes et puis un carton d'accessoires prévu.
Ça doit être assez spectaculaire.
Ouais, ça doit être assez particulier. Ouais. En fait, je pense qu'en convention ça doit être assez malsain parce que c'est de l'humiliation publique. Je pense. Ouais, hein. Enfin, il y a plus que la fiction.
Dans l'intimité.
Il y a tellement de spectateurs, ouais. Les accessoires ça peut vite être débordant quoi. Ouais.
Après, on parlait. En fait, je pense que on l'a. Enfin, je sais pas si on l'a dit ou quoi que ce soit, mais je pense que on parlait de pigeons. Tu parlais de pigeons, mais là, en fait, c'est quand même le mille pattes. Je pense, pour la plupart des gens, évoque une créature assez répugnante. Je pense qu'a priori, je sais pas. Je suis venu en disant ah ouais, chouette, je kiffe les mille pattes quoi. Mais je pense pas qu'on était là. Enfin, je pense qu'a priori, la plupart des gens, si on leur dit mille pattes, c'est ça évoque plutôt la répugnance que.
Oui, et puis les bruits qu'on a fait vont avec. Hein.
Ouais. Donc, je pense que ça fait partie de l'expérience de jeu après. Je sais pas quoi dire de plus.
C'est intéressant. Jérôme,
moi, au contraire, c'est un jeu que je trouverais idéal pour les conventions. Je le trouverais pas malsain. Donc, vraiment, en tout cas, il peut l'être, mais je pense pas qu'il le.
Faut être sacrément confiance avec soi pour monter sur scène dans ces cas-là. Hein.
Et pour aller sur la chaise.
Ça dépend comment la personne qui anime.
Tu sais pas qui y a dans la convention.
Tu sais pas qui y a dans la convention. Ouais. Tu sais pas s'il y a de la chantilly ou pas. Enfin, le sucre que je t'ai mis dessus, j'ai été gentil. J'ai essayé de viser autour de la bouche pour que tu puisses le lécher vite fait, sur les mains pour que tu puisses l'enlever. Mais imagine, je t'en frotte sur tout le torse. Enfin, c'est horrible. Enfin, ça peut déborder à une vitesse qui est incroyable, ce jeu.
Ouais.
Moi, tu vois, j'ai pas voulu jouer au jeu, tout simplement.
J'ai plus confiance que ça dans les rôlistes, en fait.
En tant que personne qui propose le jeu, comment tu garantis que tout se passe bien, effectivement, ne sachant pas qui est là? Moi, c'est de ce côté-là que ça me paraît. Parce que si tu proposes le jeu, t'as quand même une certaine responsabilité que les gens qui participent s'en sortiront indemnes. Ça me paraît un peu limite de ce côté-là.
Je suis désolé, mais t'as toujours le risque, quand tu connais pas les gens, que parmi les gens, il y a un pervers
dorée, quoi,
qui te dise oui, j'accepte les règles et qui, en fait, pendant
la blessure,
partie,
de la douleur.
En profite pour toucher les seins de la personne qui est là.
Tu le dégages.
Ouais, on est plusieurs. Hein. On est plusieurs. Alors, j'ai dit une chose. Non.
Et ça arrive quand même dans les conventions normales de jeux de rôle, sans qu'il y ait besoin de ça, Romaric.
Non. Ce que je veux dire, Romaric, je sais que il y a un truc. Moi, je sais que j'ai fait attention, mais Flavie avait dit pas les cheveux. Je sais qu'à un moment, Adrien a pris le pistolet à eau, l'orientant vers le haut. La première fois, je vais faire marquer. Discrètement, parce que je voulais pas qu'elle entende, j'ai fait remarquer discrètement que non. La deuxième fois, il y aurait pas eu de troisième fois, quoi. Je veux dire, il y a un moment où le fait qu'il y ait plusieurs aussi participants, on n'est pas, c'est pas un rapport à deux.
Ouais.
C'est que, enfin, il y a la pression du groupe joue aussi.
D'accord.
De fait que,
j'entends.
Une personne qui serait là pour, en tant que centipède, faire vivre une expérience perverse, je pense que
mais on peut toujours imaginer que des gens mais non mais je suis d'accord.
Mais je pense qu'il y a un contrôle possible.
La personne dit stop aussi. J'arrête la scène.
Ouais, mais quelque part, j'ai peur que tu sais, c'est un peu comme quand t'attrapes froid quoi. Quand t'as froid, il est trop tard. Et quand tu dis stop, parfois il est déjà trop tard en fait. Le mal est fait. Et c'est moi, c'est ça qui me fait peur. Moi, j'ai pas voulu jouer à ce jeu justement à cause de ça. Je ne sais pas moi-même quelles sont mes limites en termes de toucher. Moi, je suis extrêmement pudique du corps, extrêmement pudique du toucher. Je vais vous dire rapidement, bon, pas le pénis, pas les cheveux, pas ceci, pas cela. Vous allez me toucher le bras et en fait, je vais me sentir extrêmement mal à l'aise. Et quand je vais dire stop, quelque part, il est déjà trop tard.
Tu vois, il y a des trucs, en fait, c'est ce qui est, en fait, ce qui est assez classique, c'est qu'on va penser aux pénis, aux fesses, aux seins.
Bah oui,
mais
normal.
En fait, des gens qui ont vraiment joué vont dire, comme Adrien, pas le doigt dans l'oreille, tu vois. Et ça, c'est un truc tout bête. Hein. Oui, mais c'est tout bête. Mais le doigt dans l'oreille, il y a des gens qui vont supporter très mal. Alors qu'on ne parle pas de pénis, on parle pas, enfin, on est sur un orifice, mais on est sur quelque chose qui ne pense pas a priori. Ouais, mais quand tu as un peu d'habitude, bah, il l'a dit tout de suite.
Et en convention, parce que pas t'attendre à ce que les gens ils aient eu l'habitude de jouer à My Centipede Boyfriend. Quoi. C'est ça le problème. Alex 2.
À l'inverse, je me demande ce qui peut se développer si on prend l'habitude de jouer à ce jeu plusieurs fois avec les mêmes personnes. Éventuellement en changeant la narration, mais juste en gardant les habitudes. Voilà, tout simplement.
Manu, Mathieu, vous y rejoueriez. Mathieu, t'y rejouerais. Manu, t'y rejouerais.
Ce serait la bifle, c'est ça, le tour de table.
En l'état du jeu, non, mais je pense que du coup, il y a quand même un truc à aller chercher. Ouais, il y a peut-être un jeu à créer, quoi. Le jeu qui me plairait, j'ai plus qu'à le faire.
Mathieu.
Non, moi du coup, j'y rejouerai pas. Non, mais par contre, je me suis beaucoup amusé à faire le jeu, mais je pense en avoir fait plus ou moins le tour. Par contre, je reprendrais bien des mécaniques en termes. C'était très fort. J'ai eu l'impression, en tout cas, parce que moi, j'y suis pas passé, mais j'ai eu l'impression effectivement que c'était vraiment très fort pour les joueurs qui passaient. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. J'y rejouerai moins parce que c'est moins mon type de jeu. Le fait de voir sortir soi-même de nulle part et du néant la narration. Bon, et en plus de ça, vous étiez un petit peu dérangé, on va dire, par tout le monde. Hein. C'est faut y aller. Hein.
C'est un jeu qui demande beaucoup d'impro. Hein. Parce que improviser. Alors heureusement, c'est des concepts faciles. C'est aller au resto avec le. Enfin, c'est des trucs qu'on connaît très bien. Donc normalement, c'est pas très compliqué. Mais avec la surcharge sensorielle et tout, c'est pas évident. Hein.
Bah, moi-même de base déjà, même sans la surcharge sensorielle, juste de cracher une histoire comme ça, je suis moins à l'aise avec ça. Mais alors en plus de ça, quand on couple ça. Mais par contre, je me suis bien amusé. C'était très intéressant comme expérience.
Manu, tu voulais ajouter quelque
chose? Ouais, juste en train de faire le lien avec un truc qu'on a fait quelques fois, c'est d'aller murmurer des poèmes. Alors pour le coup, on n'était pas du tout dans un contexte érotique, hein, mais on était à la demande, à la disposition du public, et donc les gens nous demandaient, et forcément, le poème que tu murmures à l'oreille de la personne, à seul ou à deux à ce moment-là, c'est aussi en fonction de ce qui se passe autour, tu le rythmes sur tout, et les gens, et à plus forte raison, quand on était deux, qu'il y avait un effet stéréo et tout, il y avait un super retour sur dans quel état ça allait placer. Alors la question du toucher se posait toujours, par exemple. Est-ce qu'on pose la main sur l'épaule ou pas, selon si on connaissait un petit peu les gens, si on les sentait à l'aise. Des fois, c'était eux qui se rapprochaient très près de nous. Des fois, ils gardaient un peu plus de distance. Il y avait tout un truc assez intéressant.
Ça ressemble un peu au massage, en fait, ce que tu décris. Sauf que c'est auditif, mais c'est une forme de massage. Et tu sais pas exactement ce qui arrive. Tu sais que normalement, c'est plutôt agréable. Sauf que là, t'es massé avec des râteaux et... Enfin bon, c'est un massage particulier, quoi.
Très bien.
Il y a un côté ASMR un peu.
C'est Flavie dans les
My Centipede ASMR.
Après, je sais qu'à un moment, j'ai caressé Broussaille avec une brique, donc c'est vrai que c'était assez particulier.
Ah ouais, tu découvres des choses, hein.
Non, mais
je
alors.
Adrien aussi, t'as senti la brique
en
dans
fait,
ton cou.
Ce qu'on réalise pas, c'est que. Alors là, parce qu'on avait fait le choix d'ustensiles, donc tu dis que c'est pas obligatoire les ustensiles, hein, qu'on le précise bien, mais on avait des ustensiles qui étaient très différents. Le souci, c'est quand t'es touché par un ustensile, tu peux vaguement l'identifier. Là, il y avait plusieurs personnes autour de toi, donc t'es touché par plusieurs ustensiles en même temps. C'est hyper dur de savoir c'est quoi.
Adrien, t'as caressé avec une table à jardin à un moment.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais, j'allais dire ça.
Ça, j'ai senti. Oui, mais alors, j'ai dit une chose. Tu vois, là on parlait de bleed ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est le moment où le mille-pattes est sur la plage. Et je réalise, je me dis, merde. Enfin, j'ai un petit flash de réalité en me disant, merde, un mille-pattes sur la plage, il va se dessécher. Donc, il faut que je l'emmène dans un endroit humide. Alors, un marécage. Non, mais un marécage, pourquoi je pense à un marécage ou quoi que ce soit. Et la table de jardin sur le marécage, j'ai vraiment vu, en fait, parce que ça m'a... même si j'avais un bandeau, c'était pas un bandeau complètement occultant en fait. Ouais. Ça laissait passer un peu de lumière. Il y a eu l'obscurité arrivée avec le marécage. Et en fait, j'ai vraiment vu la table de jardin comme les arbres, tu sais, du marécage qui sont là. Et non, là où il y avait du bleed. Alors que, oui, avec le recul, je me dis c'est une table de jardin. Mais c'est vrai que pour moi, c'était dans le marécage, l'obscurité du marécage, les arbres du marécage. Hein. Il n'y avait pas du tout de table. Enfin, je ne conceptualisais pas la table de jardin, quoi, en fait.
C'est excellent. Darky, ouais,
j'ai une petite question, justement, pour maintenant. En fait, je repense à ce coup de table du jardin. Oui, hein. Je l'ai fait juste parce que, why not, quoi. Elle est là, testons. Donc, il n'y avait aucune cohérence entre ce qui se passait dans la fiction. Donc, je l'ai fait pour proposer un truc. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous, quand vous étiez centipède, est-ce que vous agissiez pour réagir? Est-ce que vous agissiez pour faire du décor? Est-ce que vous agissiez pour créer? Est-ce que vous agissiez pour tester? Enfin, c'était quoi votre kiff, quoi? Moi, je teste énormément, quoi. C'est des bruits, des cris. De temps en temps, je fais « Ah, il y a un humain, on va le faire parler un peu, crier », mais c'est énormément d'expérimentation. Moi, je suis curieux de savoir comment vous l'avez joué.
Darky.
Moi, j'ai l'impression que tu attends l'approbation soit des autres, qui sont aussi en train de faire des trucs loufoques et de peut-être ça les fait rire. Honnêtement, quand tu as commencé à soulever la table, on s'est tous dit « Ok, d'accord, on est mignon avec nos petits bruits de bouche, mais ça va être énorme ce qui va se passer ». Et bah évidemment, t'espères être approuvé dans le récit de la personne qui a les yeux fermés. Et du coup, c'est toujours gratifiant quand hop, il t'intègre ça dans son récit, quoi.
Mathieu.
Ouais, non, moi c'était moins. Enfin non, j'ai pas regardé forcément les autres. Si, j'ai vu évidemment la table arriver. Hein, ça, c'était pas possible de la manquer. Mais non, j'ai essayé de faire des bruits bizarres, surtout avec les objets qu'on avait, et me positionner surtout proche des oreilles pour qu'il y ait une espèce de fond sonore et de présence. Et je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit par Broussaille par rapport à la table de jardin, et donc il a vu le marécage. Ça m'a vraiment fait penser, vous savez, quand vous êtes à la limite du sommeil et vous êtes pratiquement sur le moment où vous allez basculer, et il y a des choses qui se passent dans la réalité, du genre une porte qui claque, et dans ton rêve directement tu te dis ah ouais, mais ça c'est le bruit d'un canon, j'avais l'impression d'une proximité.
Ça me fait penser aux Inconnus, tu sais, le moment où il demande à Manu de fermer les yeux et il mime les mouettes. Et puis après, il lui balance du yaourt et il dit « c'est les mouettes ».
Oui, mais t'as fait la même chose. Alors, je sais pas toi comment tu l'as vécu de l'intérieur, mais à un moment, il y a quelqu'un dans ton expérience qui a utilisé une pompe à vélo, et tu as dit au centipède « Non, arrête, pète pas sur moi, quoi !»
C'était le script que j'agitais devant Adrien.
Ah oui, non, c'était « Oui, c'est ça !» Oui, pardon, oui. Et du coup, t'as dit « Ne pète pas sur moi !» Et là, est-ce que tu validais, en fait, une...
Complètement. Ouais, complètement.
Ou alors, est-ce que tu... Enfin, tu vois, il y a un jeu, en fait...
C'était un truc qui me dérangeait un petit peu, presque. Ça faisait trop longtemps, du coup, j'ai fait « Bon, faut trouver un moyen de le dire de façon... fiction et puis ouais, je sais pas si un centipède pète, du coup la remarque me semblait étrange.
Oh, ces questions qu'on se pose
justement, attends, c'était l'idée, et moi je me suis dit mais oui, en fait il peut produire des bruits corporels qu'on va assimiler à un pet, mais qui sont des bruits de l'animal, tu vois, en fait. Et
parmi tous les bruits, on en a fait des bruits et des trucs, hein. Personne n'a fait le bruit de prout, maintenant que j'y pense.
Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai.
Et pourtant, on a pu tous constater.
Non, par contre, le moment, pour moi, le plus what the fuck qui m'a fait remonter mes lointains souvenirs de biologie de quatrième, c'est-à-dire qu'à un moment, bon, il s'avère que maintenant je le sais, c'est Adrien qui me lançait un ballon mou dessus. Et dans mes souvenirs de quatrième, je me rappelais que les cafards masculins, certains, pour pouvoir jeter le sperme en fait à leur partenaire, en fait envoyer ça, genre envoyer leur sperme et percer la carapace. Et du coup, au moment où tu dis ça, j'ai non, n'envoie pas ça, ce n'est pas la peine, ce n'est pas le moment. Et j'étais là, c'est quand même débile de penser à ça maintenant. C'est quand même débile de penser à ce truc-là auquel je n'ai pas pensé depuis que j'étais en quatrième.
Oui, tu parlais du rêve, c'est exactement ça, cette période de demi-sommeil où tu interprètes et où tu as. Tu crées du sens, en fait, tu justifies, en fait. Alors qu'il n'y a aucune logique derrière, enfin, tu fais remonter des choses pour justifier.
C'est ça, logique de rétroaction. Très bien, très très bien. Merci à tous.
Merci.
Darky, ça t'a pas trop traumatisé d'écouter un podcast en fois 1, nickel, tout va bien.
Ça fait bizarre, tout le monde est très très lent.
À très bientôt. Salut, merci à tous.
Gros bisous, les auditeurs.
Jouez bien.
Salut.